Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Husky, Espagnol, Staff, Boxer ou plutôt Chihuahua, Teckel et Caniche, la population canine en France dépasse aujourd'hui les 9 millions d'individus, selon la journaliste Mylène Berthaud, auteure en 2024 de l'enquête Toutoute. Dans ce livre, l'heureuse maîtresse d'une bulldog française observe et donne à voir avec humour l'évolution de la place des chiens dans nos vies et dans nos villes, allant jusqu'à parler d'un nouveau statut, les dogs parents. Et il est vrai que les parcs à chiens s'apparentent parfois à des jardins d'enfants, tant il n'est pas rare aux alentours de 18h d'entendre les uns s'inquiéter des troubles digestifs ou cutanés de leur labrador, tandis que d'autres vantent à coups de démonstrations de papates tendues l'intelligence incroyable de leur berger australien, probablement HPI. Et pourtant, sachez-le, les 15 000 ans de cohabitation avec l'humain ont eu un effet très net sur nos Leica, Mabrouk, Snow ou autres médors, celui de faire fondre leur cerveau. Car depuis que le chien n'est plus loup, son volume endocrânien a été réduit de 20%, un phénomène que l'on observe chez les espèces domestiquées par rapport à leurs parents sauvages. Mais ce volume endocrânien est-il corrélé à d'autres caractéristiques telles que la fonction de la race, son tempérament ou sa plus grande capacité à coopérer avec l'humain par exemple? C'est ce qu'ont voulu savoir des chercheuses de l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Elles sortent une étude intitulée « La fonction et le comportement de la race sont corrélés au volume endocrânien chez le chien domestique » publiée en novembre 2024 dans la revue Biology Letters. Avec nous en studio, Aloen Evin, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci.
Alors, nous saluons Anna Balcarcel, la première auteure de ce papier, qui n'est pas en studio avec nous, faute d'avoir un traducteur. Ça rendait les choses plus compliquées. Alors, plus fidèle à cette émission que belle à Sébastien, avec moi pour mener cette interview, la mordante Aline Perriot.
Bonjour.
J'aurais pu être plus méchante. Hein.
Oui, je ne sais pas à quelle catégorie de chien j'appartiens, je ne veux pas savoir.
En seconde partie d'émission, nous vous proposons de redécouvrir la collection de zoologie de l'Université de Montpellier. C'est avec Audrey Théron que cela se passe. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
Aloen, dans cette étude, vous étudiez la corrélation donc entre le volume endocrânien relatif et 6 autres traits. Alors, on va les citer, la fonction de la race, la classification phylogénétique, la forme crânienne, le comportement coopératif comme indicateur de cognition sociale, les traits de personnalité. On va revenir sur chacun de ces traits, mais pour commencer, qu'est-ce que vous appelez le volume crânien relatif? Est-ce que c'est la taille du cerveau ou c'est autre chose?
Donc c'est la taille du volume endocrânien, donc c'est-à-dire le volume qui est pris, c'est pas le volume qui correspond exactement au cerveau, mais à la place qu'il prend et qu'on retrouve sur l'os. Donc c'est le volume endocrânien. Et relatif, puisqu'on a corrigé pour la taille globale de l'animal.
Et oui, on se doute bien qu'un chihuahua a un plus petit cerveau que le husky, justement. Donc...
Alors, vous avez travaillé sur un échantillon de 1682 crânes de chiens qui représentaient 172 races avec à peu près autant de mâles que de femelles. Comment est-ce que vous avez eu accès à tous ces crânes de chiens?
Alors, il faut savoir déjà que les collections de musées d'histoire naturelle s'intéressent surtout aux espèces sauvages, pas trop aux espèces domestiques. Donc, on a dû aller dans des collections qui sont spécifiques et qui se sont intéressées spécifiquement aux espèces domestiques. Et c'est le cas, par exemple, au musée de Berne, en Suisse, qui a une excellente collection de nombreuses races très bien inventoriées, donc réalisées de manière très très précise.
Et alors, partant de ces crânes, comment est-ce que vous avez procédé pour mesurer le volume qu'il y avait à l'intérieur?
Alors, on a utilisé une méthode qui est utilisée depuis très très longtemps pour mesurer les volumes endocrâniens, c'est-à-dire qu'on a pris des petites billes et on a rempli le volume sur le crâne qu'on a trouvé dans les collections. Donc c'est une méthode qui est très ancienne, qui est très facile à mettre en œuvre et qui permet d'analyser énormément d'individus très rapidement. Par rapport à d'autres méthodes plus classiques, enfin plus actuelles, d'imagerie 3D par exemple. Là, c'est une méthode, on va dire, à l'ancienne, mais qui permet d'avoir une très bonne résolution parce qu'on a pu analyser énormément d'individus.
Concernant les fonctions de la race, que vous appelez-vous les fonctions traditionnelles, alors quelles sont les différentes fonctions? On peut penser au chien de chasse, par exemple.
Alors, le chien de chasse, c'est une des catégories qu'on a étudiées, mais ça va être aussi animaux de compagnie, les terriers, les chiens qui sont utilisés pour mener les troupeaux, les chiens de conduite. Donc, on a un certain nombre de fonctions. Alors, ce n'est pas nous qui les avons établies, c'est utilisé par des structures qui référencent les fonctions des races. Et on a utilisé les fonctions dites traditionnelles, par exemple, donc un husky. Aujourd'hui, il est utilisé plutôt comme un animal de compagnie, pas trop comme un animal de travail, en tout cas dans nos sociétés. Et donc, on a pris les catégories traditionnelles.
D'accord, donc c'est vous parlez du husky, même s'il n'a jamais vu un traîneau de sa vie ou un border collie qui n'a jamais vu un mouton, il gardera certains comportements cognitifs, c'est ça?
Exactement, parce que la race, elle a été sélectionnée à la base pour une fonction particulière.
Alors, d'après vos résultats, ce sont les petits chiens qui sont classés dans la catégorie toy ou jouet qui ont le plus grand volume crânien relatif, suivi des terriers qui eux sont des chasseurs, tandis que les plus petits volumes crâniens relatifs sont observés chez les chiens de travail, justement, qui sont réputés pour pouvoir réaliser des tâches plus complexes. C'est plutôt contre-intuitif, non, comme résultat? Vous attendiez à ça?
Alors, on ne s'attendait pas à ça. On a été les premiers surpris, puisqu'on s'attend toujours à ce qu'un animal qui est plus petit, il a un plus petit cerveau. Et ce n'est pas le cas. Les chiens qui ont un volume cérébral relatif les plus importants, c'est par exemple les chihuahuas. Et donc ça questionne, savoir pourquoi est-ce que les chihuahuas ont des tailles de cerveau relatifs plus importants. Et donc c'est là que c'est intéressant de comparer avec les traits et le comportement des races.
Alors, on va y venir justement à ces traits, mais d'abord, vous avez également comparé donc à taille égale des grands chiens, donc des chiens de travail, et à taille égale des chiens de compagnie. Et là aussi, vous observez que le chien de travail a finalement un volume endocrânien plus faible.
C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'un chien qui est pourtant réputé être le plus intelligent, si on peut simplifier, a en fait un volume cérébral plus petit qu'un chihuahua.
Moi, j'ai failli en déduire que le travail, ça aidait pas dans la vie, en fait. Mais non. Alors, vous suggérez...
Il n'y a pas que le travail dans la vie.
Vous suggérez aussi que l'amélioration finalement de la cognition associée à la capacité de réaliser des tâches complexes pourrait entraîner donc une restructuration du cerveau qui le rendrait plus compact.
C'est ça. En fait, on ne va pas avoir la même organisation cérébrale. Alors, ce n'est pas ce qu'on a pu mettre en évidence avec cette étude, puisqu'on avait juste le volume. Mais c'est quelque chose qu'on va chercher à mettre en évidence à l'avenir. C'est d'essayer de comprendre mieux les différentes zones du cerveau et voir quelles sont... faire une étude un peu comparable à celle qu'on a déjà menée, mais en prenant des analyses en trois dimensions avec une reconstruction du volume, de la forme par exemple du cerveau, et voir quelles sont les zones qui sont les plus affectées par les différentes fonctions ou les différents traits comportementaux.
Alors, dans une précédente étude, avait conclu à l'absence de corrélation entre la fonction de la race et le volume crânien. Qu'est-ce qui explique que vous ayez des résultats différents?
Alors, nous, on a pris en compte on a pris un volume endocrânien relatif, c'est-à-dire qu'on a pris aussi en compte la taille corporelle globale des races. Donc, on a mis à l'échelle pour vraiment pouvoir comparer des choses qui sont comparables.
Eh oui, ça change tout, en effet. Mais...
Alors, parmi ce que vous avez étudié, vous avez également regardé la corrélation entre le volume crânien relatif et ce que vous appelez le clade phylogénétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, le clade phylogénétique, ça va être le groupe d'apparentement, c'est-à-dire qu'on va regarder la génétique et la généalogie des différentes races. On a des races qui sont plus apparentées que d'autres, et donc on a regardé si ça avait un lien avec le volume cérébral, et on a montré que non.
Et autre paramètre que vous avez regardé, c'est la forme du crâne. Est-ce que là, il y a un lien ou pas?
Alors, on a montré un lien, c'est-à-dire qu'en fonction de si cette forme du crâne, elle est caractérisée par, essentiellement par la longueur du museau par rapport au volume de l'arrière du crâne. Et on a montré qu'il y avait un lien, effectivement, entre la forme du crâne et le volume endocrânien.
Et si on comparait, par exemple, un boxeur avec un nez écrasé et un staff avec un nez?
Exactement.
On va s'arrêter un peu plus longuement donc sur le lien entre le volume crânien et le tempérament. Donc là, on précise, il s'agit d'un tempérament par race. À partir d'un crâne, vous n'avez pas pu déterminer le tempérament du chien, j'imagine.
Non, c'est ça. On n'a pas des comportements pour les 1682 chiens qu'on a étudiés. On a utilisé des catégories qui sont établies, pareil, de manière très précise et très objective par des associations, des structures qui gèrent les races et le... qui gère les races. Et donc, on a utilisé 4 traits comportementaux pour définir chaque race. Donc par exemple, on va avoir la capacité de dressage, des mesures d'agressivité, que ce soit par rapport à des personnes qui sont connues, des personnes qui sont comme le propriétaire, des personnes qui sont inconnues, de l'agressivité par rapport à des chiens connus et inconnus. Et puis aussi, on a des paramètres qui mesurent la peur soit par rapport à un chien, soit par rapport à des personnes, soit par rapport à un environnement, un nouvel environnement avec des bruits ou des situations particulières. On a un trait sur l'anxiété de séparation, sur des comportements prédateurs et puis sur le niveau d'énergie.
Alors, de façon générale, vous avez observé que la peur, l'agressivité, la recherche d'attention et l'anxiété de séparation, ainsi que la capacité d'entraînement, sont corrélées au volume endocrânien relatif. Et là encore, ça peut sembler un peu contre-intuitif. Plus l'agressivité et la peur sont élevées, plus le volume endocrânien relatif est grand. Et inversement, plus la capacité d'entraînement est forte et plus le volume endocrânien relatif diminue. Est-ce que vous savez expliquer ça ?
Alors, on n'avait pas d'hypothèse précise pour chacun des traits. Mais on a déjà été assez surpris que donc parmi les 14 traits qu'on a testés, il y en a 11 qui se sont révélés significatifs. Donc ceux qui se sont révélés non significatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre le volume endocrânien et les comportements, ça va être l'agressivité par rapport à une personne étrangère, les comportements prédateurs ou le niveau d'énergie. Par contre, toutes les autres traits vont montrer un lien significatif donc avec le niveau d'agressivité et le volume endocrânien, par exemple, sauf la capacité de dressage, où là, on a une relation inverse, donc avec des races qui vont montrer une meilleure capacité de dressage, vont avoir un volume endocrânien relatif plus petit.
Alors, vous dites que ces résultats confortent la théorie de l'évolution du cerveau en mosaïque chez les mammifères. Qu'est-ce que c'est que cette théorie ?
Alors, l'évolution en mosaïque, ça indique qu'en fait, toutes les parties du corps et parties du cerveau ne vont pas évoluer de la même façon au cours du temps. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait une évolution qui ne serait pas en mosaïque, eh ben, on aurait juste un rapetissement, par exemple, avec un chihuahua qui va être proportionnellement, la relation entre la taille du corps et la taille du cerveau va être proportionnellement la même que chez des animaux de grande taille. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ça montre que la modularité, c'est-à-dire que les différentes parties d'un animal ou d'un organisme vont évoluer de manière indépendante. Et ça, c'est quelque chose qu'on va chercher à travailler dans le futur en travaillant sur les différentes parties du cerveau, par exemple.
Alors, vous expliquez que comme le prédit ce que vous appelez le syndrome de domestication, les races les plus agressives, elles possèdent les tailles cérébrales les plus grandes de tous les chiens et les moins agressives les plus petites. D'ailleurs, les loups ont en moyenne un cerveau 20% plus gros que les chiens. Et parmi les chiens, les moins dociles, c'est aussi ceux qui ont le plus gros volume cérébral. Est-ce qu'on peut en déduire que la domestication, elle est liée à une réduction du volume crânien chez le chien ?
Alors, on voit effectivement 20% de réduction dans la taille du volume endocrânien relatif. Mais par contre, comme on l'a montré, ça ne dit pas qu'il va être moins intelligent ou qu'il va être moins avoir des capacités sociales ou d'agressivité qui vont être proportionnellement réduites. Donc il y a vraiment un lien, il n'y a pas de lien entre les comportements, les fonctions et le volume endocrânien.
Et la domestication, vous l'avez observé chez d'autres animaux ? J'ai vu qu'il y avait des études chez le bœuf et l'auroch, par exemple, sa version sauvage. C'est propre aux chiens ou c'est courant, ça, comme constat ?
Alors, il y a des études qui montrent que c'est une réduction assez globale chez différentes espèces domestiques. Mais là, donc, ce qu'il faut s'intéresser, ce n'est pas juste au volume, mais c'est vraiment à la réorganisation du cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec la domestication ? Comment le cerveau évolue ? Et quelles sont les régions qui vont évoluer par rapport par rapport aux différents traits liés à la domestication.
C'est pas l'humain qui fait régresser forcément les animaux, quoi.
Pas du tout. Et surtout, la domestication, on montre bien que c'est pas une simple relation et qu'ils ont des capacités qu'on ne retrouve pas chez le sauvage.
Alors, on a longtemps évalué les capacités cognitives des chiens à leur capacité à coopérer avec l'homme. Là, vous montrez qu'il n'existe finalement pas de différence significative entre les races dites coopératives et les races indépendantes.
Voilà, donc on a une catégorie avec juste coopératif et indépendant et on a montré qu'il n'y avait pas de différence entre les deux.
Et on corrèle souvent, enfin, alors on imagine que la taille du cerveau et l'intelligence, ou plutôt l'évolution cognitive, sont liées. Du coup, d'après vos travaux, ce n'est pas si évident que ça.
Ce n'est pas si simple que ça et on ne peut pas faire de raccourcis direct en disant plus gros cerveau, plus grande capacité. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Aloïne. C'était
merci
passionnant.
Beaucoup. Merci.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine, c'est Audrey Théron, chargée de collection muséale, qui nous fait arpenter les longs couloirs de l'Institut botanique pour nous présenter les mammifères de la collection de zoologie de l'Université de Montpellier. Frissons garantis.
m'appelle Audrey Théron et je suis chargée de collection muséale à l'Université de Montpellier.
Et donc aujourd'hui, tu nous fais découvrir la collection de zoologie, c'est bien ça ?
C'est ça, alors une collection de zoologie qui est dispersée dans plusieurs réserves. Donc là, on est plutôt dans les réserves qui sont consacrées aux mammifères. C'est une petite collection de 300 spécimens qui est dans deux pièces.
Et donc en rentrant dans cette première pièce, la première chose que l'on voit, c'est une lionne.
C'est une lionne qui a une petite histoire en plus assez marrante parce que en fait, la plupart des animaux que l'on possède, on ne connaît pas forcément leur histoire. On a des traces dans les catalogues avec une ligne le jour de l'achat ou de la donation. Mais celle-ci, en fait, on a pu un peu retracer son histoire parce qu'elle a été donnée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris au 19e siècle et on sait qu'elle vient d'Alger. Et certainement, elle aurait été rapatriée lorsqu'il y a eu la chute du Grand Dais d'Alger au milieu du 19e siècle. Et donc, les Français avaient récupéré la ménagerie du Grand Dais et l'avaient rapatriée à Paris. Et de Paris, en fait, lorsqu'elle est décédée, on a récupéré en fait, l'animal naturalisé. Alors, empaillé et naturalisé, c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à dire naturalisé, empaillé, parce que tout simplement, il y avait de la paille au 19e siècle qu'on mettait à l'intérieur. En fait, un petit peu tout ce qu'on trouvait. Hein. D'ailleurs, il peut y avoir du tissu, de la mousse. Mais aujourd'hui, on dit naturalisé parce qu'on utilise des mousses spécialisées qui reproduisent la forme du corps et qui sont mieux pour la conservation, puisqu'en fait, la paille, ça amène quand même des petits insectes qui peuvent aussi grignoter la peau.
Donc, ce spécimen-là date du 19e siècle.
La plupart des collections de l'université datent du 19e siècle, hein, puisque l'université, la faculté de sciences a été créée en 1808.
À côté de cette lionne, donc on voit pas mal d'autres animaux, à commencer par des chauves-souris.
Oui, alors on est en plein récollement des collections. Alors le récollement, c'est différent d'un inventaire. Donc l'inventaire, c'est notre travail de base, c'est savoir ce qu'on a dans les collections. Et une fois qu'on sait ce qu'on a dans les collections, on fait du récollement. C'est-à-dire qu'on reprend l'inventaire et on vérifie que toutes les pièces sont toujours là. Donc là, les inventaires ont été réalisés. Et puis là, on fait le récollement des collections. Et en année, il restait que les grands mammifères, enfin les grandes chauves-souris à réaliser.
D'accord, donc effectivement, elles sont grandes, on n'en voit pas des comme ça en Europe.
Là, on les avait sortis parce qu'il y a eu justement un reportage sur les chauves-souris avec Sébastien Puechmaille.
Et ça soulève un point important, à quoi ils servent ces animaux naturalisés aujourd'hui ?
Alors c'est vrai qu'ils ne sont plus utilisés pour les cours aujourd'hui, on parle de collections patrimoniales, donc des collections historiques qui sont utilisées essentiellement dans les musées et pour des expositions, de la valorisation et de la connaissance. Il y a des espèces qui sont parfois disparues, d'autres qui sont en voie de disparition, donc ça permet aussi de garder une trace et puis il y a quand même des gens qui font de la recherche dessus, qui peuvent venir pour faire des prélèvements de poils, de peau, de tissus, d'ADN.
Alors par terre, on voit, c'est un tatou, c'est pas un pangolin ?
C'est un pangolin.
Le fameux pangolin, d'où est-ce qu'il vient ?
Les collections qui sont dans cet espace-là, on les a récupérées il n'y a pas très longtemps sur le campus du Triolet. Après le confinement et pendant le confinement, on a eu un beau, gros travail d'inventaire et de remise à jour de nos réserves. On a pu les réaménager et rapatrier les dernières collections qui manquaient.
Alors justement, est-ce qu'il y a des spécimens qui sont plus rares que d'autres dans cette collection ?
On est soumis à des réglementations de plus en plus drastique. Donc on fait attention aussi à la provenance de nos collections lorsqu'elles datent d'après la Convention de Washington dans les années 70.
Qu'est-ce que c'est la Convention de Washington ?
La Convention de Washington, en fait, c'est une convention qui établit la protection de la faune et de la flore et qui, justement, émet tous les critères pour protéger notre biodiversité. Donc il faut toujours justifier de nos espèces. Et puis quand on a des donations encore aujourd'hui de particuliers, il faut leur demander s'ils ont des justifications et les soumettre donc à la DREAL qui autorise ou non l'entrée en collection.
À côté du pangolin, là on a des reptiles, donc des crocodiles, des petits caïmans.
On a une petite collection de reptiles effectivement qui sont juste à côté, dans la pièce à côté. Là, c'est pareil, c'est deux étudiants qui ont réalisé l'inventaire l'année dernière.
On peut aller les voir d'un peu plus près.
Oui.
Alors, au fur et à mesure que Audrey lève le rideau, on voit des dents apparaître et des serpents.
Les collections, elles ne sont pas toujours en très bon état. Déjà, elles étaient manipulées par les étudiants. Donc, c'était des collections pédagogiques avant tout. Et puis, en fait, elles ont été transbahutées pas mal de temps avant que l'université ne crée ce qui est aujourd'hui le service du patrimoine historique. Et les tissus, ça reste quand même assez fragile dès qu'il y a un peu de poussière, surtout les reptiles.
Il y a des conditions particulières, justement, pour les conserver ?
Comme toutes les œuvres d'art, voilà, il y a des conditions de luminosité, d'hygrométrie. Voilà, donc, ils sont surveillés dans chaque salle. Ça, c'est la partie naturalisée. Il y a la partie en fluide. fluide, donc tout ce qui est en bocal, qui est sur le campus du Triolet. Donc là aussi, c'est une autre manière de conserver, qui est aussi un peu plus dangereuse, parce qu'on utilisait aussi des produits toxiques au 19e. Et c'est pareil, même pour les animaux qu'on voit là, les peaux étaient souvent tannées à l'arsenic, donc on ne manipule pas avec les mains.
Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des iguanes, de crocodiles, voilà, et de caïmans, et de serpents.
Puis après, une collection, une grande collection de tortues. Il y a des gros spécimens, il en reste encore quelques-unes sur le campus qui sont utilisées. Ça va de l'ordre du 2 cm à peut-être presque 1 mètre pour les grosses carapaces.
Oh, il y a des sacrés poissons aussi.
C'est pareil, les poissons, c'est très gras, donc c'est très compliqué à naturaliser parce qu'il faut les dégraisser, les faire bien sécher. Et en général, après, s'ils sont mal séchés, ils ont la couche, l'empoussièrement se fait très rapidement et il peut y avoir des départs de moisissure assez rapides.
Il y a encore un risque qu'ils s'abîment ou
Oui, alors ils peuvent s'abîmer parce que les peaux, comme les peaux, le bois, nos cheveux, voilà, tout ce qui est vivant, en fait, se rétracte et se contracte ou se rétracte, et puis en fonction de l'hygrométrie, en fait, de l'eau dans leur corps. Donc en fait, ça fait les animaux sont cousus, donc les coutures lâchent parfois sur certains animaux, on peut le voir.
Il y a une autre pièce, et donc là, avant même d'avoir passé la porte, on voit un guépard en train d'attaquer un petit zèbre. C'est étonnant comme mise en scène. Donc.
Oui, alors la taxidermie, il y a toute une évolution dans la représentation des animaux. Donc en général, ça permet aussi de dater parce qu'il y avait des représentations très agressives à une période qu'on ne fait plus quasiment aujourd'hui. Là, c'est un spécimen, enfin deux spécimens qui ont été mis en scène comme ça par le taxidermiste du zoo. On a une convention avec le zoo pour parfois récupérer des peaux ou des os qui sont d'ailleurs utilisés en général par l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution.
Alors autour de nous, on voit beaucoup de cornes, de bois. On voit même une vraie tête de girafe qu'on voit.
Oui, c'est ce qu'on appelle des trophées. Donc ce sont uniquement les cornes ou le frontal du crâne avec les cornes. Ça dépend, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir parfois la tête en entier naturalisée. Donc là, on a la tête de la girafe. Bon, alors il faut savoir que nous aussi, on avait un taxidermiste à l'université avant 2008, puisqu'il est parti à la retraite. Et donc je crois que c'est lui qui avait beaucoup travaillé sur ce spécimen-là. Et donc on a le squelette qui correspond à cette girafe. Le squelette est toujours dans les salles de TP et à part.
Il n'y a plus d'os, non ?
Non, il n'y a plus d'os. En fait, dans aucun des spécimens qu'il y a ici, les os sont retirés et sont utilisés pour... on pouvait utiliser tout sur un spécimen. Donc, on montait les os sur un socle à part et puis après, on montait la peau à côté. Ça permettait aussi de comprendre l'intérieur de l'animal. Ce sont des fils de fer aussi qui maintiennent.
Qui c'est, lui ? C'est une sorte de kangourou ?
Voilà, c'est un wallaby. Et là, il y a écrit figuré en gros sur son socle. Donc, a priori, ce serait un animal qui a permis les figurer de décrire une espèce.
Donc, on a des antilopes, des bouquetins. Au-dessus, donc, on a un sanglier. On a, c'est un fourmilier, un tamanoir.
Voilà. Il est pas mal sorti en exposition et c'est un beau spécimen.
Là, on a un gros animal, donc c'est aussi un capridé. Là-haut, il y en a. Alors, j'ai du mal à dire que c'est beau, mais en tout cas, c'est très impressionnant.
Les amis, c'est vrai, sur des étagères, donc c'est vrai qu'ils dominent là-haut et donc on a l'impression qu'ils vont nous sauter dessus aussi. Et il y a un gros lémurien aussi qui est accroché à sa branche. Il faut savoir qu'au 19e siècle, donc, on ne rapportait que les peaux. Les peaux et les os séparés pour pouvoir les conserver sur la durée. Des voyages qui pouvaient durer plusieurs années en bateau. Hein.
Et en face de nous, c'est un petit dromadaire noir ?
Non, c'est un petit lama. C'est une vigogne. Alors, il y en a aux zoos, des vivants.
C'est plus sympa quand même. Le castor, il a l'air énorme au-dessus aussi.
Voilà. C'est un ragondin, non ? Le castor, il est... Alors, le castor est dans le frigo. Parce qu'en fait, il était en exposition au musée Fabre pour l'exposition Pharmacopée. Et en fait, quand on fait revenir des pièces d'un musée, d'une exposition, ou qui se sont baladées en dehors de nos réserves, on les congèle. On les surgèle même. Ils passent à... là, ils sont à moins 50 à peu près. Pour éviter toute infestation dans les collections. Parce qu'une infestation, c'est le drame. Et ça peut vite manger tous les peaux et tous les poils. Donc voilà. Et la surgélation permet... la surgélation à environ une semaine de nos spécimens permet d'éviter ces problèmes-là.
Alors là, on a un loup.
C'est un loup gris. Le loup était à la place de la lionne. Donc c'est vrai que quand on rentre, on voit la lionne en face de soi qui est face à la fenêtre. Donc c'est assez impressionnant. Et avant de récupérer la lionne, c'était le loup. Et une fois, on avait fait intervenir, je pense, pour des problèmes d'électricité, des techniciens. Et en fait, j'avais ouvert. Je me dis, c'est là-bas. Il rentre et je les vois repartir en criant un loup. Il est vraiment en train de sortir en courant. Mais il est mort.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.